On sait tous que l'immobilier est un des leviers les plus puissants pour développer son patrimoine. Et l'achat-revente est une des stratégies qui permet d'obtenir des résultats potentiellement considérables. On en parle avec Sylvain lors de l'épisode 60 sur l'activité de marchand de biens. Et aussi, on organise un live exclusif ce jeudi 2 mai à 20h. Alors si tu veux y participer, je t'invite à t'inscrire dès maintenant. Tu trouveras un lien dans les notes de cet épisode et toutes les informations sur leBonFlip.com/live. Et je te laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode.
Après, là, le marché est un peu haut, donc on peut toujours trouver des bonnes choses, mais voilà, je pense qu'il faut. Il y a ce qu'on a envie et ce que le marché dit. Donc, des fois, il faut savoir attendre aussi. On voit que les personnes qui ont plutôt réussi connaissent beaucoup de types d'actifs et ont déjà eu leurs petites erreurs. Il y avait deux côtés dans le trading. Il y avait celui-ci qui est très manuel, et puis j'avais un autre côté que je trouvais intéressant parce que j'ai un passé un peu informatique. Je voulais voir ce que donnaient les bots en fait sur les marchés. C'est-à-dire que du coup là c'est vraiment des algorithmes, c'est pas de l'intelligence artificielle, hein. Ça c'est faux, c'est vraiment des algorithmes qui achètent et qui vendent assez rapidement. Ce que j'ai préféré pour l'instant, c'est vraiment on part de projets de private equity qui sont pas dans les plateformes où il y a vraiment des vraies rencontres. Si on mouille pas la chemise, le projet il avance pas.
Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux. Et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go ! Alors aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Adrien Fanger, dans le cadre de la petite série estivale Investisseurs heureux. On va voir, Adrien, si tu es un investisseur heureux. Salut, comment vas-tu ?
Très bien, bonjour Ismaël.
C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Alors pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent situer un petit peu, alors on est notamment associés dans le cadre d'un investissement qu'on a fait en private equity ensemble. Et du coup, c'est par cet intermédiaire que du coup je t'ai contacté pour que tu puisses venir faire profiter un petit peu de ton expérience d'investisseur, l'ensemble des actions que tu as pu mettre en place, etc., et voir un petit peu les difficultés que tu as rencontrées sur ce parcours. Si je ne dis pas de bêtises, donc Adrien, tu as 36 ans, tu as deux enfants, tu es marié, tu travailles donc actuellement chez Hermès, sur Paris, ou Pantin plus exactement. Et tu as différentes passions qui sont notamment le sport, le goût du voyage, avec des projets que tu as envie de faire, un tour du monde notamment. On pourrait y revenir peut-être succinctement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à ton parcours plutôt d'investisseur et voir ce que tu as mis en place, quels sont tes objectifs et les quelques difficultés que tu as pu rencontrer. Enfin, tu en diras plus, mais tu es quand même assez adepte de la diversification d'une certaine façon. Tu as un pied dans l'immobilier. Tu as un pied dans la bourse, dans le trading, dans le private equity, donc dans l'investissement dans des boîtes non cotées. Et également, tu aimerais te lancer, si je ne dis pas de bêtises, sur le rachat d'entreprise. On y reviendra. Mais juste avant de commencer ça, au niveau du podcast de La Bonne Fortune, j'ai deux, trois petites questions. Comment tu l'as découvert, d'une part? Ensuite, est-ce que tu as un petit épisode préféré? Si oui, tu peux nous le partager et pourquoi? Voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais pour la suite de ce podcast?
Je l'ai découvert grâce à notre réseau, comme tu as pu le dire, de personnes qui ont investi dans la même société. Donc, on a vu le démarrage de La Bonne Fortune et les épisodes s'enchaîner à une vitesse un peu effrénée. Moi, l'épisode que j'ai vraiment aimé, c'est celui avec Aurélien Schneider. Parce que du coup, voilà, ça fait vibrer. Il y a des fois des sujets qui nous font vibrer, on ne sait pas forcément pourquoi. Et donc lui, il m'a beaucoup plu. Et puis bien sûr, celui de Lisiane, parce que du coup, c'est, voilà, on sent une fusée au décollage, un maximum d'énergie. Et ça, c'est toujours plaisant d'avoir ce type de podcast.
Je te coupe, hein, Lisiane, qu'on embrasse hein, forcément. Et donc, l'épisode avec Aurélien Schneider, donc c'était sur la reprise d'entreprise. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Qui est un sujet, je trouve, qui est assez absent. Et donc, on a peu de contenu quand même sur ces éléments. Et je pense que c'est assez passionnant. Et puis, pour la suite de La Bonne Fortune, moi, ce que j'aime bien, c'est le concret, les chiffres. Ça, j'adore. Pouvoir comparer, peut-être pas tout à fait la bonne stratégie, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir les pieds dans la réalité.
En effet, on en discutait, et c'est vrai que c'est un des points que tu aimerais qu'il soit peut-être mis un peu plus en avant. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, c'est pas, je pense, par manque de transparence de la part des invités qui, jusqu'à présent, se livrent quand même sans filtre, hein, comme j'aime à le dire. Mais pour encore aller plus loin et casser encore tous ces tabous qui tournent autour de l'argent d'une façon générale, de l'épargne, de l'investissement, c'est vrai qu'avoir du concret, c'est intéressant et c'est un petit peu justement l'idée de cette série Investisseurs Heureux, de prendre le cas de l'exemple de personnes vraiment qui sont sur le terrain, qui sont actives, qui ont des projets en place, qui en ont mis en place, qui en ont d'autres en cours pour voir justement vraiment rentrer dans le concret, voir que ce soit les chiffres pour les investissements immobiliers, que ce soit le processus réel et les blocages qu'on peut avoir sur d'autres types d'investissements. Et par rapport à ça, justement, on va voir sur tes chiffres à toi, Adrien, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dévoiler déjà un petit peu les différentes classes d'actifs, donc je les ai introduites tout à l'heure, dans lesquelles tu investis, et comment ça t'est venu, un petit peu pourquoi, un peu le processus?
Rapidement, bah du coup, j'ai fait mes études, j'ai bien travaillé, j'économisais beaucoup. Un vrai petit écureuil, j'ai acheté ma résidence principale. Et puis, à la fin de la résidence principale, qu'on a payé assez rapidement, on a pris une petite résidence principale, toujours en mode, plutôt minimalisme, juste voilà, la suffisance. On se dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? On peut prendre ce crédit qu'on va plus payer pour tout dépenser. Ou se dire, ben, c'est peut-être une opportunité de préparer la suite et d'avoir cette opportunité de mettre de l'argent sur quelque chose pour la retraite. Voilà. Initialement, c'était ça. Et puis après, j'ai eu une deuxième fille, parce que j'ai deux enfants, donc la deuxième fille, et j'ai vraiment eu une prise de conscience en me disant, mes enfants, qu'est-ce que je vais leur laisser? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur offrir pour leurs études? Et ça, alors c'est un peu prévoyant, hein, parce que c'est dans 17 ans, mais comme j'avais pas eu la chance de pouvoir rentrer en école de commerce parce que c'est assez coûteux et que j'avais pas le bon profil, voilà, ça c'est quelque chose qui m'a profondément fait un déclic et poussé pour progresser dans le sujet.
Ouais, top. Donc tu as déjà cette première base assez économe, assez organisée. C'est rigolo que tu dises justement qu'est-ce que je vais faire de ce surplus d'argent qui va rentrer une fois que j'aurai fini de rembourser la résidence principale, et avec une volonté tout de suite de se dire tiens, je vais y mettre une partie, tout ou partie, pour du réinvestissement. Et c'est intéressant parce que tu vois, au niveau de La Bonne Fortune, on va bientôt lancer un programme d'accompagnement, de formation, et ça va être justement les premières marches vers l'indépendance financière. C'est vraiment ça, c'est d'une part pour certains, de stopper l'hémorragie financière, déjà de remettre les comptes à plat pour pouvoir, in fine, se dégager un revenu récurrent, mensuel, une part de revenu qui sera dédiée à et l'épargne et l'investissement. Et à partir de là, de ces fondations, une fois qu'on a mis les choses en place, on peut commencer vraiment à entrevoir d'autres choses. Et dès lors qu'on est en plus animé avec un pourquoi, comme tu le dis, la scolarité de ta fille, etc., dès lors qu'on a un pourquoi fort, on a un objectif fort qui est intéressant, ben là, on peut commencer à vraiment aller dans la direction et puis s'épanouir au travers différents investissements qui nous font plaisir, qui ont du sens. Donc toi particulièrement, tu es rentré donc sur l'immobilier aussi locatif, la bourse, le private equity. Tu peux nous en dire un peu plus?
Et juste pour compléter, pour avoir les éléments chiffrés, du coup, quand j'étais jeune, je mettais à peu près 10-20%, 200, 300 euros par, sur un compte tous les mois, pour un salaire qui était à 1 700 à peu près. Et là, depuis que vraiment je suis rentré en mode plutôt fort sur l'investissement, on essaie d'avoir entre 30 et 50% de nos salaires qui sont gardés pour l'investissement.
J'imagine que de ces 1 700 euros, tu as un niveau de revenu aujourd'hui qui a augmenté.
Oui.
Et donc, tu peux mettre en place un pourcentage d'épargne, ce qu'on appelle asynchrone,
oui, oui.
C'est-à-dire qu'au début, avec un petit revenu, tu vas mettre un petit pourcentage qui va représenter donc, cette somme de 200-300 euros. Grosso modo, 15% sur 2000 euros, ça fait 300 euros d'épargne.
Oui.
Et en augmentant aujourd'hui, je ne sais pas si tu as 3000, 4000 euros de revenus, tu peux te permettre, en augmentant tes revenus, d'augmenter en plus la part, et donc ce qui fait vraiment décupler l'épargne disponible pour pouvoir investir.
Et ça fait du bien, et ça amène de la sérénité, et ça permet de gérer par catégorie et de ne pas se poser trop de questions si on a envie de partir en vacances. On sait déjà ce qu'on a, donc c'est chouette.
Exactement. Bah, écoute, félicitations à toi déjà pour avoir toutes ces bases. Est-ce que tu me disais tout à l'heure en introduction, en off, que tu avais des lectures, etc., qui t'ont amené sur tous ces cheminements, un peu à te poser des questions, à remettre de l'ordre dans tes finances, à avoir des objectifs assez élevés et te lancer dans l'investissement. Tu as deux, trois références là-dessus ?
Du coup, bah, c'est plutôt des références classiques, hein, père riche, père pauvre, deux, trois volumes. L'effet cumulé que j'ai trouvé très puissant.
L'effet cumulé de Darren Hardy, il est vraiment exceptionnel. Ouais. Ouais, ouais.
Ouais.
C'est très très simple, c'est du bon sens.
Et c'est appliqué, appliqué, appliqué. Quoi. Et puis Thinking Big, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu en anglais. Parce que, et c'est un peu, du coup, je vais faire la transition sur l'immobilier. C'est quand on se lance dans une activité, ça nous prend énormément d'énergie. Et en fait, autant viser gros que petit. Et typiquement, quand j'ai démarré l'immobilier, on s'est dit, ben, est-ce qu'on fait un petit appartement pour tester ? Et on s'est dit, ben, en fait, non. Enfin, si on teste, on teste tout de suite gros. Donc, on a tout de suite démarré par un immeuble de rapport. Donc, tout de suite, le gros projet. Parce qu'on s'est dit, autant mettre de l'énergie, du stress et de l'inquiétude, autant en avoir un résultat qui est plus important pour le même niveau.
La magie de voir grand de David Joseph Schwartz, ouais, qui est excellent également, ouais, ouais, ouais.
Exactement. Et donc, on a vraiment démarré par ça parce que l'immobilier, en France, ça marche bien. Il y a le principe de levier. Et puis, on s'est dit, ben voilà, si c'est quelque chose qui est récurrent. Pour l'instant, voilà, c'est très concret. Donc, quand on démarre l'investissement, au moins, on est rassuré, on voit le truc, il brûle pas, il est devant nous. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et on a démarré, et pour la petite histoire, donc on cherchait vraiment près de chez nous parce que pour gérer, ben, si c'est à 2h30, on n'était pas, ben, on est très pragmatique. Et donc, on cherchait dans notre ville, donc pas très loin de Paris, au sud de Paris. Et on cherche. Et en fait, ma compagne va au pain et l'agent immobilier était en train d'en parler au boulanger pour qu'il diffuse un peu l'annonce. Et donc, elle lui saute dessus et lui dit, ben, non, nous, on est intéressés. L'immeuble est à vraiment 500 mètres de notre résidence principale. Et donc là, on a ferré cette affaire qui était très clairement très délabrée. Voilà. Mm-hmm. Donc, elle est bien placée, puis à côté d'un RER, centre-ville, mais beaucoup de travaux. Et ça a été la partie beaucoup moins fun.
Ouais, ouais. Comme tu dis, l'immobilier, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on peut bénéficier de cet effet de levier, donc de créer quelque part un patrimoine, se créer un patrimoine avec l'argent de la banque, hein, de l'argent qu'on n'a pas, donc on va venir créer ce patrimoine. Par contre, ouais, il y a les côtés un peu moins glamour peut-être, c'est chronophage, il faut faire de la prospection, il faut être au bon endroit, il faut rechercher, etc. Donc là, vous avez provoqué la chance avec justement cet agent immobilier, soit qui tombe là dans la boulangerie, etc. Donc, il y a un petit peu les étoiles, des planètes qui s'alignent.
Oui.
Mais derrière, j'imagine que bon, ça ne s'est pas fait comme ça. Il a fallu quand même être réactif pour faire les visites, pour se positionner, faire l'offre, etc. Et en plus, sur un bien qui avait certainement donc un potentiel, tu le dis, mais qui, malgré tout, vous aviez quand même des risques avec ces travaux, avec l'état du bien initial.
Bah, du coup, je peux en parler là, assez concrètement. Du coup, c'était un immeuble sur lequel il y avait trois locations, un local commercial vide depuis 7 ans, deux appartements, dont un loué, et l'autre, il y avait un trou qui était à l'étage et il y avait un trou, hein, sur le sol. Donc, ça, c'est... voilà, et qui était affiché vers 250 000 euros. Et donc, qu'on a négocié, visité, renégocié. J'ai pris un architecte. Autant j'ai fait la résidence principale plutôt tout seul, autant là, au vu des éléments, je me suis dit un architecte. On en a fait un appel d'offres. On a fait le tour des architectes et on a pris l'architecte qui sait faire les travaux lui-même et qui m'a raconté qu'il avait déjà un petit peu d'immobilier et qui sait faire les travaux. Donc ça m'a rassuré. Donc, on a pris un architecte. On l'a négocié vers 181 000 euros. On avait quand même, j'espère, une belle négociation. On a réussi du coup à avoir un crédit de la banque. Et dans les embûches, parce qu'il y a quand même des embûches, même si j'ai lu tout qu'il fallait, enfin toutes les bonnes règles de gestion, apporter un minimum, on a dû quand même mettre un petit peu d'argent pour finir les travaux, parce qu'on a complètement dérapé sur les travaux, quasiment de 50%.
Ah oui, 50%, c'est pas rien. C'était quoi l'enveloppe de travaux initiale?
C'était, alors c'est peut-être pas 50%, mais c'est 50 000 euros. Donc c'est peut-être, on avait pris 100, 120 000 euros pour les travaux.
D'accord. Et donc cet immeuble, donc avec le local commercial et les deux appartements, c'était quoi la superficie à peu près?
181 mètres carrés.
180 mètres carrés, donc affiché 250 000 euros. Cette négociation ramenée à 180 000 euros, donc grosso modo 1 000 euros du mètre, et 120 000 euros de travaux. Donc un produit fini qui tourne aux alentours de 1 800 euros du mètre, quelque chose comme ça. Je fais le calcul de tête, alors excusez-moi si à la virgule si c'est pas bon. Et du coup, donc ces travaux, 120 000 euros prévus initialement, et vous avez dû rajouter à peu près 50 000 euros quand même in fine que... vous n'aviez pas provisionné avec la banque. J'imagine que vous n'avez pas pu faire une rallonge de crédit supplémentaire. Vous l'avez demandé?
Alors, on a fait deux choses. On a tiré sur toutes les cordes. On avait demandé initialement un délai de 12 mois, un délai de carence de 12 mois.
Un différé, oui, sur l'emprunt.
Voilà, donc on est passé à 18 mois, déjà pour laisser un peu de temps, parce qu'en fait, ça a pris un peu de retard. Et on a refait un crédit de 40 000 euros. Et en fait, on a fait un petit peu différemment, parce qu'on avait une locatrice qui était en place, et on s'est dit, bah parfait, on fait l'immeuble, et puis la locatrice, on la laisse vivre, et puis quand elle partira, un jour, on refera l'ensemble. Et puis, bien entendu, elle est partie pile poil au mauvais moment, entre guillemets. Mais ce qui était, au final, une très bonne idée, parce que du coup, ça a permis de... On avait déjà toutes les équipes en place, l'architecte, on connaissait pas tout le monde. Et donc, du coup, ça nous a permis de faire l'ensemble vraiment refait à neuf.
D'un coup, ouais, d'une traite, plutôt que d'y revenir 6 mois, 1 an après, en effet, ouais.
Exactement. Et ça faisait 8 ans qu'elle était là. Donc, bon, mais c'est comme ça. C'est des petits éléments, mais c'est quand on est dans les travaux, on a déjà le délai, on est en retard. On augmente le délai du crédit, on voit que ça dérape, on est obligé de refaire un crédit, il y a la locatrice qui part.
Ouais, ça peut être des situations qui sont inconfortables à vivre sur le moment, après coup.
Ça se finit bien.
Bien souvent, très très bien, et c'est intéressant, et tu le prends avec le recul, là je vois pour ceux qui ils vont simplement nous écouter, les auditeurs, mais on voit ton sourire, on voit ton détachement, etc. Mais c'est vrai que sur le moment, ça doit être des périodes un petit peu compliquées, et c'est là où je pense qu'il faut tenir bon, déjà d'être formé, d'être armé, c'est ce qui permet d'assimiler un petit peu tout ça avec un peu plus de philosophie, un peu plus de hauteur, mais c'est vrai que c'est peut-être des moments inconfortables, ouais.
Et voilà, donc, nos finances, du coup, étaient vraiment basses pour le coup. Mais effectivement, et après, bon, on l'a fait, on a réussi, on s'en est sorti. Et puis là, ça tourne plutôt bien. Il y a encore des petits problèmes, mais qui vont être récurrents. Enfin, il n'y a pas de gain sans difficulté.
En effet, faut mouiller la chemise.
Exactement.
Comme tu aimes le dire aussi.
Si on ne mouille pas la chemise, le projet, il n'avance pas. Donc, non, c'est passionnant.
Ok, intéressant. Donc ça, ton expérience immobilière, donc la résidence principale, remboursée rapidement. Donc là, cet immeuble de rapport, d'autres projets en immobilier en cours ou à venir?
C'est ce que j'aimerais sur les 2-3 prochaines années, là, renouveler cette expérience. Enfin, en tout cas, renouveler une acquisition. Après, là, le marché est un peu haut, donc on peut toujours trouver des bonnes choses. Mais voilà, je pense qu'il faut... Il y a ce qu'on a envie et ce que le marché dit. Donc des fois, il faut savoir attendre aussi. Un marché à vendre qu'à acheter, mais on ne sait jamais, on peut toujours trouver la bonne pépite. C'est l'opportunité qui fait le timing, c'est pas notre volonté, mais on peut pousser un peu.
Ouais, de rester à l'écoute du marché, de rester attentif, de rester en contact avec les différents agents, peut-être, etc., de ta zone, de ta commune. Et après, donc, sur les autres investissements, parce que donc, du coup, tu es un fervent défenseur de la diversification.
Bien sûr.
C'est pourquoi? C'est par sécurité? C'est par curiosité?
Alors, par curiosité, oui. Par sécurité aussi. Et puis, c'est aussi par au fil des choses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a utilisé son effet de levier bancaire, Bon, soit on renouvelle l'immobilier, mais là on avait envie de voir comment ça tourne, et puis faut le voir sur le long terme, on peut tout enchaîner là. Mais nous on avait envie de prendre un peu de recul, voir comment ça fonctionnait, comment ça se déroulait. Et puis du coup on a refait notre petit matelas de sécurité, qui est important. Et après on s'est tout lancé dans la bourse, parce que bourse, voilà, PEA, ça permet d'avoir ce cash disponible qui se vend rapidement si jamais il y a un problème. Et donc on a démarré la bourse avec un objectif, voilà, de faire 10% par an, donc au sein d'un PEA, et puis pour l'international plutôt sur d'autres traders hors PEA du coup forcément. Et voilà, et puis là du coup c'est l'idée, c'est de se fixer, enfin pour qu'on fait nous, c'est de se fixer des objectifs annuels, se dire là cette année je mets 5 000, l'année prochaine je mets 10 000, et dans 3 ans il faut que ça arrive à 20 000. Voilà. Et l'idée c'est d'avoir ce type de raisonnement. Et donc là, voilà, je tiens l'objectif à la fois d'investir un certain montant et à la fois d'avoir un rendement autour de 10%. Ce qui est bien et pas bien, parce qu'en fait, on voit que la bourse fait beaucoup plus que 10%, mais voilà, c'est un choix, et je pense qu'il faut pas aller trop vite, faut apprécier les petites victoires.
Ouais, super intéressant ce que tu dis, de mettre les choses en place, voilà, pas après pas. On sent dans ton discours vraiment la méthode là, des effets cumulés, de faire à chaque fois d'empiler, 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 et au fur et à mesure du temps, voilà, il n'y a pas d'enrichissement rapide, ou alors voilà, c'est assez rare, mais et puis ça peut pousser potentiellement à faire des bêtises, mais ça se construit un patrimoine, ça se construit sur le long terme, ça s'organise sur le long terme. Il y a toute une gestion d'allocation à définir aussi en fonction des objectifs. C'est sûr que si on se crée le patrimoine avec l'effet de levier bancaire dans le cadre de l'immobilier, c'est très très bien. Par contre, ben, c'est un patrimoine qui n'est pas forcément liquide et disponible. Demain, on a besoin de 10 000 euros pour, je sais pas moi, acheter une voiture, 20 000 euros, 30 000 euros, etc. Ben, on ne va pas pouvoir vendre trois fenêtres et récupérer la partie. C'est le tout ou rien, ça prend du temps, etc. Il y a de la fiscalité inhérente à tout ça. Et donc, le fait d'avoir une approche complémentaire sur différentes classes d'actifs, c'est intéressant pour ça, en termes aussi de disponibilité du cash. Parce que, encore une fois, une vente immobilière, ça va être plus long. Un compte titre en bourse, on appuie sur le bouton, on récupère l'argent. Il y a une question de fiscalité pour le PEA avec ses 5 ans à l'ouverture pour pouvoir éviter, si on retire avant, éviter la clôture. Et bénéficier, si on retire après, l'avantage fiscal aussi. Et donc, tout ça cumulé, le fait d'être diversifié comme ça, ben, le jour où on a besoin de retirer de l'argent, ben, on peut se servir sur la poche, le véhicule fiscal le plus adapté du moment aussi. Ça peut être l'assurance vie, ça peut être le compte titre, ça peut être comme ça des choses assez liquides. Et c'est intéressant le fait de mixer, quoi, parce que voilà, on se prémunit en fonction des marchés. Et des classes d'actifs qui vont être décorrélées les unes des autres en fonction des performances. Et en même temps, on a une disponibilité trésorerie aussi qui peut être intéressante pour activer d'autres choses. Donc voilà, je pense que tu dois jongler. Tu as ton effort d'épargne, tu abondes tes différents comptes d'investissement. Et dans le même temps, tu jongles, tu fais de l'arbitrage et tu réadaptes en fonction de tes objectifs et tes besoins aussi.
Oui, et il y a un point qui est important, c'est qu'on oublie, c'est l'apprentissage. Et c'est important en fait de se dire, voilà, après rapidement j'ai fait de l'equity, du coup on s'est retrouvé là sur cette société, et puis je suis également voilà, je suis deux trois personnes qui sont passées dans ton podcast comme Léonis Investissement, donc j'ai fait un peu d'equity, c'est un peu plus rapide, un peu plus simple. Et là cette année par exemple j'ai fait le trading, et je me suis mis comme objectif, bah, d'essayer le trading, et je me suis dit je mets pas beaucoup, et je vais faire des erreurs. Et j'en ai fait des belles en fait, techniquement. Et je me dis, bah, c'est pas grave, je tente cette classe d'actifs cette année. Et alors, je tente, c'est pas très joli, mais je l'apprivoise. Je me mets dedans, je l'apprivoise, je veux comprendre comment elle marche. Et l'année prochaine, il y aura des vrais objectifs, des vraies envies. Mais il faut, c'est là où la diversification est importante, c'est de rentrer dans plusieurs classes d'actifs et puis les apprendre. Et puis comme ça, on a soit le patrimoine, ou soit on voit un signe, je pense, du marché, on peut être plus présent. Et je suis avec beaucoup d'humilité, tout petit, hein, dans tout ça, je démarre, hein. C'est vraiment beginner total. Mais on voit que les personnes qui ont plutôt réussi connaissent beaucoup d'actifs, et savent et ont déjà eu leurs petites erreurs.
Il y a de l'apprentissage dans tous ces domaines, des classes d'actifs qui sont complètement différentes de par leurs utilisations, de par leur disponibilité et le fonctionnement, etc. Et vaut mieux peut-être commencer en effet petit, même si tu as parlé de la magie de voir grand, etc. Ça n'empêche pas d'avoir des gros objectifs, mais de commencer petit pour faire les erreurs avec un petit capital, un petit montant. Vaut mieux se casser les dents avec un petit montant pour apprendre, pour après avoir les armes pour pouvoir se déployer. Et c'est intéressant. Tu parlais de chiffres, d'être dans le concret, d'avoir un peu plus de chiffres, etc. Dans le trading, ça représente quoi à peu près en termes de peut-être de pourcentage ou même de montant et c'est quoi comme erreur que tu as fait? Donc, j'imagine que tu as eu des pertes, sachant que le trading pur et dur, il y a 90% des personnes qui font du trading. Donc, dans les 90%, il y a même des traders professionnels qui sont en perte, hein, qui sont en négatif, qui ont des résultats négatifs sur le trading. Donc, c'est vraiment... Moi, j'appelle ça un jeu dangereux. Personnellement, je n'exerce pas ça. Ça aura peut-être l'occasion d'évoluer, hein, parce que la curiosité, etc. Mais c'est quand même un jeu dangereux. Ça représente quoi, tes erreurs? Tu peux nous en dire plus avec les chiffres?
Pas de souci, j'avais mis 1000 euros. Et donc là, c'était vraiment du trading sur le Forex. Et je pense qu'au bout d'un mois, j'avais perdu 450 euros. Donc je me dis, bon, là ça ne va pas du tout, là.
Le Forex, hein, tu peux en deux secondes juste expliquer pour celles et ceux qui nous écoutent qui ne connaîtraient peut-être pas.
C'est un marché qui associe des paires monétaires, donc l'euro, le dollar. Et donc, il y a ces balances monétaires, elles montent ou elles descendent. Et c'est surtout, ça va très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'effets de levier. On est à entre 1000 et 2000 en effet de levier. Voilà, donc, ça va très, très vite. Et on voit, ça monte, ça descend. Du coup, on a envie de, voilà, on pense toujours qu'on est plus intelligent que les autres. Et donc, du coup, voilà, je gérais pas très bien les stop loss, les remontées, en fait, la limite. Une fois qu'on a sécurisé à peu près, on remonte la limite pour, si jamais le marché redescend, bah, hop, en tout cas, on limite notre perte. Donc voilà, j'ai fait plein de belles erreurs. Et donc ça, il y avait deux côtés dans le trading. Il y avait celui-ci qui est très manuel, et puis j'avais un autre côté que je trouvais intéressant parce que j'ai un passé un peu informatique. Donc, je voulais voir ce que donnaient les bots, en fait, sur les marchés. C'est-à-dire que c'est vraiment des algorithmes. C'est pas de l'intelligence artificielle, hein, ça c'est faux. C'est vraiment des algorithmes qui achètent et qui vendent assez rapidement. Et là, pour le coup, pareil, des erreurs. Trop de prise de risque, donc j'ai perdu 500 euros sur lequel j'avais mis 3000 euros de capital, j'ai perdu 500 euros, je suis remonté à 3600, et puis après j'ai voulu mettre plein de robots qui s'associaient sur le même compte, donc il y en a un qui a perdu, et du coup qui a perdu quasiment 2000 euros. Voilà, je sais pas si c'est très clair, là, ça partait un peu dans tous les sens, mais...
Pour reprendre, donc tu as la partie trading manuel où tu as mis 1000 euros, tu as perdu 450, donc allez, quasiment 50% de ton capital qui est parti en fumée très rapidement.
Oui.
Et de l'autre côté, avec les bots, donc les robots de trading automatiques, avec donc les algorithmes, etc., qui investissent un peu pour toi, tu les paramètres, tu cibles, j'imagine, un niveau de performance attendu, objectif, etc., etc. Et en fonction, il va prendre plus ou moins de risques pour toi. Et c'est pareil, ça va très, très vite. Et donc là, tu avais mis 3000 euros et tu as fait un peu les montagnes russes et...
J'ai fait l'erreur de pas segmenter les comptes. Alors normalement, on dit un compte, un robot, et puis je dis, bah non, je vais mettre plusieurs robots sur un compte, c'est bien plus intelligent. Voilà. Donc quand il y en a un qui se casse la gueule, bah, tout le monde se casse la gueule. Mais c'est très bien, c'est des apprentissages. Après, c'est là où je poursuis. C'est pas dire que j'ai arrêté, pour le coup. Voilà. Je poursuis, et là, j'ai remis en place...
Après, tu vois, dans le trading, alors bon, ça peut être bien, il y a la liquidité, il y a le truc, etc. Potentiellement, il y a des performances qui peuvent être intéressantes, mais d'une part, moi, j'y vois quand même ce risque où, encore une fois, c'est statistique, hein, il y a 90% des traders qui perdent, donc c'est pas pour rien. C'est sûr qu'on s'imagine tous être facilement dans les 10% gagnants, mais il y a ce côté-ci. Et l'autre côté qui me rebute un petit peu personnellement, c'est le côté le temps y passer. C'est quelque chose qui est, je pense, assez chronophage aussi. On ne peut pas forcément déléguer. Tu parlais des bots, on peut se reposer sur un bot, mais il y a toujours à surveiller, à paramétrer, à remettre des stop-loss, des sécurités, etc., etc. Et donc, tout ça fait que, pour ma part, je passe mon chemin là-dessus. Mais en tout cas, c'est un moyen d'investissement aussi comme un autre. Et c'est intéressant que tu fasses part de ton expérience et des difficultés. On sent en toi donc ces premiers échecs là qui sont arrivés, mais l'envie d'apprendre et de continuer tout doucement. Et puis, on verra ça dans quelques années.
J'espère. Non, à minima, éponger les pertes, c'est même pas une question. c'est à faire. Mais effectivement, c'est assez addictif, le problème. Donc, on a toujours envie de regarder. Je pense qu'il faut toujours cette période d'euphorie. Quand on découvre une classe d'actifs, il y a toujours cette période d'euphorie où on a envie de tout tester. C'est là où on fait plein de belles bêtises. Mais une fois ce moment d'euphorie passé, c'est bien parce qu'on est beaucoup plus rationnel, je trouve. Donc c'est pour ça, c'est plutôt ma personnalité, mais on est toujours euphorie, on fait plein d'essais, ok, maintenant fini l'année d'apprentissage, maintenant c'est pour de vrai. Et c'est mieux, je trouve, d'essayer avec son propre argent que des comptes fictifs. Parce que les comptes fictifs, du coup, même si on fait l'erreur, on la fait pas cogiter.
Bien sûr, les comptes fictifs, ça peut être intéressant pour voir un peu le fonctionnement, comment ça marche techniquement, mais par contre, d'un point de vue... on avait fait une très belle émission avec David Furcache sur tout ce que sont les biais cognitifs. On ne va pas être impliqué du tout de la même façon, donc on ne va pas percevoir, on ne va pas être impliqué émotionnellement dedans. On va être vraiment détaché, donc on aura tendance à avoir des raisonnements et une application qui ne sera pas celle qu'on aura vraiment une fois qu'on jouera avec, qu'on investira avec notre propre argent.
Exactement.
Donc, ouais, c'est intéressant ce que tu dis aussi là-dessus. Et après, pour le private equity, du coup. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu as pu faire aujourd'hui dans ce domaine-là?
Alors du coup, ce qui m'intéressait, c'était de diversifier, puis ça nous permet aussi d'être connecté un peu ce que fait le monde, ce qui se passe dans le monde. Donc il y a des plateformes là qui sont toutes très bien. Hein, je ne sais pas si on peut les citer, mais Anaxago ou d'autres, Omity. Donc c'est plutôt intéressant. Ça permet de voir les projets, un petit peu les chiffres réels, quoi, hein, c'est 5-10% par an. Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais ce que j'ai préféré pour l'instant, c'est vraiment, on part de projets de private equity qui sont pas dans les plateformes où il y a vraiment des vraies rencontres et qui démarrent. Et ça, ça permet d'avoir 30 ou 20, 40, 50 personnes qui ont un peu le même objectif. Ça permet d'échanger sur les bons conseils. Et ça, c'était le plus intéressant. Donc, si j'ai à refaire, enfin, j'en fais encore chaque année, hein, parce qu'il y a l'enveloppe allouée pour le sujet. Mais c'est de trouver des projets vraiment qui démarrent et qui ne sont pas clés en main, en fait. Quand c'est facile, en fait, tout le monde le fait et le gain est moins intéressant. C'est même pas un niveau d'argent. Là, oui, c'est compliqué d'aller trouver un projet de private equity qui est pas facile en un clic, vraiment où il faut aller voir des personnes, mais ça, c'est mine de rien, c'est là où on apprend davantage, en fait.
Et c'est exactement ce qu'on disait avec Gabriel Jarosson là, donc qui a le club Léonis Investissement. C'est super intéressant, mais en même temps il y a cette barrière un petit peu d'accès parce que les deals se trouvent pas forcément partout, et en plus, dès lors même quand ils peuvent se trouver comme ça pour investir en direct, souvent les tickets d'entrée également sont assez importants, mais c'est vrai que le fait d'être en direct comme ça permet d'investir à plusieurs, et ça peut être fait au travers de clubs aussi, hein, comme ils le proposent, mais c'est pas mal, c'est intéressant parce que tu retrouves en effet mais comme nous on en est le parfait exemple, hein, mais des personnes qui sont alignées, qui ont une vision assez proche de la nôtre en termes d'état d'esprit, en termes d'investissement, en termes d'objectifs. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger, de communier. Ça débouche vraiment sur des belles rencontres. Et c'est intéressant en dehors, en plus, de vraiment l'aspect purement financier. Et le fait de, comme tu l'as souligné, c'est important de le redire, le fait d'investir en direct, on investit vraiment dans la société. On investit vraiment dans la société d'aujourd'hui. On y met... notre petite pierre, et donc on participe à l'évolution de celle-ci, et on peut le faire avec du sens, on peut choisir des boîtes qui ont des valeurs qu'on peut porter, etc. Et donc ça, c'est vraiment intéressant aussi, le côté investir avec du sens, contribuer et participer, faire des rencontres et d'être aligné avec des personnes qui nous ressemblent également. Ouais.
Et c'est pas forcément impossible, ça peut être tout près de chez soi, et ce qui est le plus près, on le voit le moins. Je reprends là sur l'immeuble, donc du coup, il y avait un local commercial vide, et on se disait, on habite dans la ville, on a envie de faire un truc sympa, quoi. Donc, on avait posté l'annonce, on a eu plein de monde, et il y avait eu un peu tout et n'importe quoi, Bara Shisha, une ville de 3000 habitants. Et on a pris quelqu'un, enfin il y avait des pizzerias, et donc on a pris quelqu'un de la pizzeria, on a pris quasiment celui qu'on pensait le meilleur, qui avait déjà une pizzeria, qui avait déjà un nom, qui est très très bon, qui fait des très bonnes pizzas, donc on était déjà sûr qu'on apporte quelque chose déjà de sympa et qui nous aussi nous fasse envie, comme ça de temps en temps si on avait besoin d'une pizza bonne, on pouvait y aller. Et mine de rien, du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui est, du coup, ben, c'est un auto-entrepreneur, hein, les pizzaiolo. Et lui, il développait sa deuxième pizzeria. Et puis, j'étais déjà dans les travaux un peu compliqués. Et j'ai pas osé aller trop là-dedans. Mais avec un retour d'expérience, j'aurais pu proposer de mettre un ticket d'entrée dans sa société de pizzeria qu'il était en train de créer. Et pour en avoir reparlé avec lui, il aurait été d'accord. Et là, il veut monter une troisième pizzeria. Et ben, du coup, on est en train d'échanger pour voir si je peux investir avec lui dans la pizzeria. Et là, c'est du direct, c'est pas du plateforme. C'est la personne qui est à 5-10 km de chez moi. Et puis, on le voit vraiment dans la vie de tous les jours, quoi.
Ouais, c'est extraordinaire. C'est un peu un mix, un peu à l'image de ce qu'on évoquait aussi avec Aurélien, entre la reprise d'entreprise et puis le private equity. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un local commercial que de simplement de le mettre en location? On peut pourquoi pas proposer un projet, rentrer dans le projet en partie, etc., etc. Tout est libre et c'est intéressant de vouloir pourquoi pas lui donner cette chance. Je ne sais pas si c'est au travers de ton local ou pas, et puis en tout cas ça tissait un lien, et puis de rentrer avec lui dans son business, et toi tu vas pouvoir lui apporter éventuellement une partie de ton réseau, lui apporter une partie de tes connaissances, et lui restera sur l'opérationnel, j'imagine, de façon classique. Et c'est vraiment des rencontres et du gagnant-gagnant. Ouais.
Exactement, qu'est-ce qu'on peut amener dans la balance? Donc voilà, ça c'est comme quoi après ça commence, je pense que quand on a plein plein d'ingrédients, ça commence à faire une vraie mayonnaise, et c'est pour ça du coup c'est intéressant je sais plus qui j'ai, que voilà, j'écoutais en bon conseil, c'est le réseau est une force, et c'est dur de faire un réseau en fait, on peut pas sortir de chez soi et dire bonjour, je voudrais faire un réseau, mais voilà, le fait de rentrer dans des actifs et puis d'avoir des rencontres, ben, ça permet de créer tout ça.
En tout cas, super inspirant. J'espère que ça va inspirer d'autres personnes. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié notre échange, Adrien. C'est encore une fois super inspirant. Et je pense que l'ensemble des 70 associés de la boîte seront ravis de découvrir ton parcours et ton état d'esprit. C'est vraiment plaisant. Et puis, je pense que ça, voilà, ça va pouvoir apporter. Donc, tu es sur Pantin. Si jamais il y a des auditeurs, des auditrices de La Bonne Fortune qui veulent te contacter, ils peuvent te retrouver sur les réseaux, sur LinkedIn peut-être.
LinkedIn, c'est parfait.
Ouais, super. Ben, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode avec grand plaisir. Pour finir, est-ce que tu peux faire part, je t'ai demandé en amont de cet épisode, si tu avais une petite citation, un petit mantra que tu aimais bien, est-ce que tu peux nous en faire part, et ça sera vraiment le mot de la fin?
Je dis autour de moi, et je me le dis aussi de temps en temps, tu es beaucoup plus que tu ne le crois l'être. Et c'est important de se le répéter, de se dire que voilà, les personnes sont importantes, qu'on est important, et que ça forme un tout. Voilà, ça, je le dis quasiment en permanence.
Bah écoute, mille merci Adrien pour tout ça. Et puis, en tout cas, c'était vraiment avec un grand, grand plaisir. Et puis, je te dis pour ma part, à très, très vite.
Merci Ismaël, à bientôt.
Ciao, ciao.
Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission, et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao !